Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 10 mars 2021. John Linden à la présentation. Tout d'abord, les titres. En Libye, le gouvernement de transition a obtenu la confiance du Parlement. C'est une étape importante vers la réunification du pays. En Sierra Leone, un scandale éclabousse le cercle rapproché du président Julius Maada Bio, présenté comme le champion de la lutte contre la corruption. En Parti Magazine, nous irons au Sénégal, le retour à la normale après plusieurs jours de violentes émeutes. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le ministre de la Défense Lloyd Austin vont la semaine prochaine au Japon et en Corée du Sud. Le Monde Aujourd'hui, c'est aussi l'économie et les sports, mais tout d'abord, le journal. Une fois encore, bonsoir, on le disait donc en titre, en Libye, le gouvernement de transition a obtenu mercredi la confiance du Parlement après deux jours d'intenses débats. Le point avec Abdourahman Dia.
Les parlementaires ont approuvé l'équipe d'Abdelhamid Dabeiba par 121 voix sur les 132 présents. Je vous remercie pour votre confiance, a réagi le Premier ministre, qui a été désigné le 5 février par 75 responsables libyens de tous bords réunis à Genève sous l'égide de l'ONU, en même temps qu'un conseil présidentiel de 3 membres. Ce sera le gouvernement de tous les Libyens, a promis cet homme d'affaires de 61 ans, visiblement ému dans un bref discours après le vote. La Libye est une et unie, a clamé M. Dabeiba, originaire de Misrata, dans l'ouest libyen. Les députés étaient réunis depuis lundi dans la ville de Sirte, à mi-chemin entre les régions rivales de l'Est et de l'Ouest. Ils ont longuement débattu de la composition du nouveau gouvernement, de la répartition géographique des postes et de sa feuille de route. L'ONU a salué lundi une session historique et une étape cruciale vers l'unification du pays, alors que le Parlement élu, profondément divisé, s'était très rarement réuni ces dernières années. M. Dabeiba devra désormais unifier les institutions libyennes et mener la transition jusqu'aux élections du 24 décembre.
En Sierra Leone, l'image du président Julius Maada Bio, connu pour son engagement dans la lutte contre la corruption, a été ternie ces dernières semaines par des accusations de dépenses illégales visant son épouse et son ministre le plus influent. Mouhamadou Mfa nous en dit plus.
En janvier, un site d'information basé aux États-Unis, African Express, a rapporté que l'épouse du président sierra-léonais, Fatima Bio, a dépensé l'équivalent de 2,5 millions d'euros pour une campagne de lutte contre les violences sexuelles et le viol. Or, la législation sierra-léonaise interdit à la première dame d'utiliser des fonds publics. Quelques semaines plus tard, le même site a affirmé que le super-ministre David John Francis, un des personnages les plus puissants du pays, avait engagé pour 1 million de dollars de dépenses mal ou non justifiées, des accusations niées par le concerné. Ces affaires sont très embarrassantes pour le président sierra-léonais à l'origine d'une enquête pour corruption visant son prédécesseur Ernest Bai Koroma. Plusieurs anciens responsables de l'administration Koroma ont d'ailleurs été arrêtés dans le cadre de la lutte contre la corruption engagée par le président Bio. Son propre ministre du Travail, Alpha Tembo, a été suspendu en raison des soupçons de détournement liés à une donation chinoise de riz. Désormais, le président Julius Maada Bio, qui avait promis de récupérer des dizaines de millions de dollars volatilisés, doit faire face à des accusations de corruption qui touchent son cercle rapproché.
Un passant a été tué par balle mercredi à Johannesburg lors de la dispersion par la police sud-africaine d'une manifestation d'étudiants, selon de sources concordantes. Des affrontements ont éclaté lorsque la police a utilisé des balles en caoutchouc pour disperser les étudiants qui bloquaient les rues et perturbaient la circulation dans le centre-ville de Johannesburg, aux alentours du campus de l'université Wits. Ils protestaient contre le refus d'inscrire des étudiants en retard dans le paiement de leurs frais de scolarité. Les explosions qui ont ravagé un camp militaire en Guinée équatoriale ont fait bien plus que 105 morts et 615 blessés. Human Rights Watch réclame une enquête internationale. Le président Teodoro Obiang-Nguema a blâmé les responsables du camp de Nguantoma à Bata d'avoir stocké les explosifs si près des quartiers d'habitation. Les inondations provoquées par des pluies torrentielles qui se sont abattues sur le nord-ouest de l'Algérie le week-end dernier ont fait 10 morts selon le bilan définitif de la protection civile algérienne. Plus de 300 agents ont été déployés en réponse à ces inondations qui ont touché plusieurs préfectures du pays.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le ministre de la Défense Lloyd Austin se rendront au Japon et en Corée du Sud la semaine prochaine. C'est ce qu'annonce ce mercredi le département d'État. Les précisions de Nadine Talani.
Anthony Blinken a écrit sur Twitter que le déplacement visait à promouvoir la paix, la sécurité et la prospérité dans la région Indo-Pacifique et à travers le monde. Le secrétaire d'État américain et le ministre de la Défense Lloyd Austin auront des réunions avec leurs homologues japonais et sud-coréens. À Tokyo, M. Austin s'adressera aussi à des hommes d'affaires et des journalistes. Il soulignera le rôle d'une presse libre dans la promotion d'une bonne gouvernance et la défense de la démocratie. À Séoul, le ministre américain des Affaires étrangères parlera à des jeunes et à des journalistes. Monsieur Blinken discutera également de la politique américaine vis-à-vis de la Corée du Nord. Ce premier voyage à l'étranger est destiné à consolider les alliances face à la Chine. Il entend réaffirmer l'engagement des États-Unis à renforcer nos alliances, a indiqué le porte-parole du département d'État, Ned Price. Il se tiendra quelques jours après la tenue par le président américain Joe Biden d'un sommet virtuel avec les dirigeants du Japon, de l'Australie et de l'Inde.
Les États-Unis veulent acheter 100 millions de doses supplémentaires du vaccin contre le COVID-19 de Johnson & Johnson, ce qui doublerait leur commande à l'entreprise pharmaceutique. Joe Biden doit s'exprimer sur le sujet lors d'une rencontre dans l'après-midi avec les dirigeants de Johnson & Johnson et d'un autre groupe américain, Merck, qui ont annoncé la semaine dernière avoir passé un accord pour produire ce vaccin. Le premier ministre britannique Boris Johnson a rejeté mercredi les accusations de l'Union européenne sur un blocage par le Royaume-Uni des exportations de vaccins contre le coronavirus. « Nous n'avons pas bloqué l'exportation du moindre vaccin contre le COVID-19 ou le moindre composant de vaccin », a déclaré le chef du gouvernement devant le Parlement. « Nous nous opposons au nationalisme vaccinal sous toutes ses formes », a-t-il ajouté. En Allemagne, le parti de Merkel tente de mettre fin à l'affaire des masques. Deux parlementaires sont accusés d'avoir directement ou indirectement reçu des commissions de plusieurs centaines de milliers d'euros sur des achats de produits médicaux tels que des équipements de protection anti-Covid. Ils ont depuis été poussés hors de leur parti. D'ailleurs, faisons le point sur l'évolution de la pandémie de COVID-19 dans le monde. C'est avec Claire Morin-Gibourg.
En Europe, un record de cas de contamination au coronavirus pour 2021 vient d'être enregistré en Pologne. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé un accord avec le laboratoire BioNTech-Pfizer pour la fourniture en mars de 4 millions de doses supplémentaires. La Commission table sur l'augmentation des livraisons de vaccins au deuxième trimestre avec 300 millions de doses. Aux États-Unis, des centaines de milliers d'écoliers de Los Angeles pourraient retourner en classe le mois prochain, presque un an après le passage aux cours virtuels. Les écoles maternelles et élémentaires devraient rouvrir mi-avril, selon un accord de principe entre le district et un syndicat d'enseignants. Les collèges et lycées devraient suivre fin avril. L'île Maurice a entamé un confinement national jusqu'au 25 mars pour la deuxième fois depuis l'apparition du COVID-19 dans cet archipel de l'océan Indien il y a un an.
L'île Maurice a entamé ce mercredi un confinement national jusqu'au 25 mars. Seuls les services essentiels seront opérationnels durant cette période. C'est le deuxième depuis l'apparition du COVID-19 dans l'archipel de l'océan Indien il y a un an. Ce confinement est depuis nécessaire après l'apparition de 4 nouveaux cas locaux positifs de COVID-19, ce qui porte à 14 le nombre de cas positifs enregistrés depuis le 5 mars dernier. Plusieurs centaines de policiers et de soldats birmanes ont lancé un raid à Rangoon contre des cheminots grévistes opposés à la junte militaire qui poursuivait la répression. Le Conseil de sécurité de l'ONU continue sa recherche d'une position commune. Deux versions successives d'une proposition de texte rédigée par le Royaume-Uni et qui envisageait une condamnation explicite du putsch et la possibilité de sanctions ont été rejetées mardi par la Chine, la Russie, l'Inde et le Vietnam. Facebook a lancé ce mercredi une version allégée de son service de partage de photos et vidéos Instagram dans plus de 170 pays à destination des zones rurales et des collectivités isolées ne disposant pas d'un accès ultra rapide à Internet. Instagram Lite, qui pèse seulement 2 MB contre 30 MB pour la version intégrale, est téléchargeable sur les appareils munis du système d'exploitation mobile Android de Google. L'application n'est pour l'heure pas disponible sur la boutique en ligne d'Apple. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et dans le monde, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Claire Morin-Gibourg.
La coopération bilatérale entre Libreville et Moscou pourrait être renforcée dans le domaine de l'infrastructure, a fait savoir hier l'ambassadeur de Russie après une rencontre avec le ministre gabonais des infrastructures, Léon Armel Bunda-Balonji. Plusieurs sociétés russes opérant dans les secteurs de l'énergie, du pétrole, de l'automobile et des travaux publics ont manifesté l'intérêt d'investir au Gabon. L'agence de notation Moody's a relevé la note du Bénin et la perspective pour les investisseurs est passée de stable à positive. Moody's a pris la décision de revaloriser les notes du Bénin grâce à son bilan solide en matière d'assainissement budgétaire et d'amélioration de la structure de la dette, soutenue par une meilleure gestion des finances publiques malgré la détérioration de certains paramètres budgétaires en raison de la pandémie. Au Cameroun, Union Bank a publié des résultats positifs malgré un environnement difficile renforcé par la pandémie du coronavirus. En 2020, l'amélioration des revenus annuels est de 9% par rapport à 2019. L'entreprise a également réalisé une croissance record de 18% des dépôts et son bénéfice net dégagé est de 1,5 milliard de francs CFA.
À présent, la page des sports et c'est avec Nanit Talani.
Bonsoir John, bonsoir à tous. Les matchs de la première journée de la phase de poule de la Coupe CAF se jouent ce soir. Plusieurs équipes se sont déplacées. Les Burkinabés de Salitas FC se sont rendus en Tunisie rencontrer le CF Sfaxien. Alali Benghazi de la Libye se déplace au Nigeria pour jouer contre Enyimba. Les Sénégalais de Jaraf se déplacent en Algérie pour y affronter l'étoile sportive du Sahel. Pyramide FC d'Égypte reçoit Kana de la Zambie. Le Raja Casablanca fera face à Namungu de la Tanzanie. Les autres Marocains de Berkane accueillent Napsa, star de la Zambie. La JS Kabylie joue contre Coton Sport de Garoua. Les autres Algériens de Sétif seront face aux Sud-Africains d'Orlando Pirates. En Europe, Ligue des Champions ce soir. Deux matchs au programme à 20h temps universel. Liverpool de Sadio Mané, Mohamed Salah, Naby Keïta et Joël Matip est dans une bonne dynamique en Ligue des Champions, a affirmé hier son coach Klopp, soucieux de faire oublier à son groupe sa série récente de contre-performances en championnat. Dans l'autre huitième de finale retour, le triomphe au match aller à Barcelone 4-1 a fait du PSG l'immense favori pour la qualification, mais le club parisien sans Neymar doit encore surmonter le traumatisme persistant de la remontada. Le sélectionneur de l'équipe de football du pays de Galles, Ryan Giggs, accusé depuis novembre de violence conjugale, va manquer le début des éliminatoires pour le Mondial 2022, a annoncé mercredi la fédération. L'ancien ailier de Manchester United, âgé de 47 ans, avait été arrêté après une dispute violente avec sa compagne Kate Greville. Son contrôle judiciaire avait récemment été prolongé jusqu'au 1er mai. Giggs, qui a nié ses accusations, sera remplacé par Robert Page, qui avait déjà assuré l'intérim pour les matchs de la Ligue des Champions en novembre. Pour terminer, l'Allemand Thomas Bach a été réélu mercredi pour 4 ans à la présidence du Comité international olympique qu'il dirige depuis 2013, à quelques mois des Jeux d'été de Tokyo qui se tiendront du 23 juillet au 8 août. Le Bavarois de 67 ans a été reconduit à la quasi-unanimité avec 93 voix pour et une contre, tandis que 4 membres se sont abstenus lors de la 137e session du Comité international olympique tenue en visioconférence. Thomas Bach promet des JO sûrs à Tokyo cet été, malgré la pandémie et les incertitudes sur la présence de public et la rigueur des mesures sanitaires. À son actif, une sécurisation à long terme des intérêts du Comité international olympique, de ses ressources financières à l'organisation des JO, menacées par la raréfaction des candidatures et l'explosion des coûts.
Merci Nanit. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. John Lyndon toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Et on commence par la Libye où après 2 jours des débats, le gouvernement de transition a obtenu la confiance du Parlement. Alors que l'unification du pays reste à faire, Claire Morin-Gibour a demandé aux spécialistes de la Libye, Jalel Archaoui, s'il s'agissait d'une session historique pour le pays.
Oui, sur un certain nombre de plans, effectivement, il y a quand même le fait que le pays était dans une guerre jusqu'en juin 2020, avec une division territoriale assez grave, qui reste grave, dans le sens où il y a des missions étrangères très enracinées. Et malgré ça, on se retrouve avec un paradoxe dans le sens où il y a un gouvernement unique pour l'ensemble du pays qui semble être reconnu à l'échelle nationale. Donc ça, il faut déchiffrer un petit peu ce que ça veut dire. Mais c'est vrai que ça mérite d'exister, il faut le reconnaître, c'est un moment important. Ça ne veut pas dire qu'on est sorti de l'auberge, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir beaucoup de difficultés qui vont émerger dans les semaines et mois à venir. Mais c'est pas la guerre, c'est une forme de pragmatisme qui est intéressant.
Donc pour vous, après toutes ces années de violence et de chaos, on peut commencer à être optimiste pour la Libye?
Ça dépend ce qu'on cherche. Si on cherche simplement un calme technique avec un nombre de morts par jour qui soit proche de zéro, on y est. Si on cherche une véritable unification de la gouvernance politique avec une harmonie dans le fait de mener une politique cohérente à travers tout le pays, on n'y est pas du tout. Ce gouvernement-là a essayé de faire plaisir à beaucoup de factions, beaucoup d'acteurs, et tout cela va se traduire par une espèce de fragmentation locale qui va au moins rester, voire s'approfondir. Donc il n'y a pas vraiment une cohérence de politique, il n'y a pas une... Ils vont parler sans doute de reconstruction, mais reconstruction, c'est quoi? C'est dépenser beaucoup d'argent. Même si la Libye est riche, elle n'a pas un budget infini. Donc il va y avoir un problème parce que ce Premier ministre, sa spécialité, pour l'instant, c'est de promettre beaucoup de choses à beaucoup de gens.
Ce Premier ministre, justement, il dit, il affirme qu'il veut unifier les institutions. Est-ce que vous pensez que cela est possible?
Non, ça ne va pas avoir une réalité dans les mois à venir. Il ne va pas y avoir un véritable ministère de l'Intérieur qui soit géré ou qui fonctionne de manière similaire à l'Est et à l'Ouest. Encore moins pour le ministère de la Défense, où il va y avoir une présence militaire turque qui va rester à l'Ouest et il va y avoir une présence militaire russe, soudanaise, émiratie qui vont rester à l'Est. Non, tout ça, peut-être qu'il va y avoir une unification bancaire, enfin oui. C'est une piste très importante pour l'ONU, pour les États-Unis, pour les Libyens eux-mêmes. Il va y avoir, je pense, une unification du système financier et bancaire, mais les institutions, si vous voulez, régaliennes, autres que la Banque centrale et autres que le système bancaire, non, concrètement, non.
Jalel Archaoui, chercheur pour l'initiative globale contre la criminalité transnationale organisée et spécialiste de la Libye. Après plusieurs jours d'émeutes, la vie a repris son cours normal à Dakar, mais certains quartiers portent toujours les stigmates de ces 5 jours de soulèvement populaire. Cependant, les citoyens reprennent le travail et les commerçants leurs activités. De notre correspondant à Dakar, Sedina Abagué.
Secoué par des vagues de manifestations violentes pendant plusieurs jours, Dakar, la capitale sénégalaise, retrouve le calme et l'activité économique progressivement. Des commerces comme celui de Samba viennent de rouvrir après une semaine de fermeture. Ce commerçant estime que les émeutes ont causé un énorme manque à gagner.
C'est pénible et c'est très dur. Nous sommes restés une semaine sans travailler. Je ne voulais pas prendre le risque d'ouvrir ma boutique. Je ne voulais pas m'exposer, de même que mes biens. Vous avez vu que beaucoup de magasins ont été pillés. En vérité, j'ai ouvert hier. Mes clients sont venus acheter aujourd'hui. C'est un énorme manque à gagner pour moi. Cependant, il m'est très difficile d'évaluer la perte financière.
Il n'est pas le seul commerçant impacté par les émeutes. Saliou est vendeur d'accessoires de téléphone portable. Pour préserver sa sécurité et celui de son commerce, il avait suspendu toutes ses activités. Il a repris service aujourd'hui et il souhaite que la paix soit durable.
J'ai marqué une pause. La situation sociopolitique était loin d'être rassurante et stable. J'ai repris les activités aujourd'hui. Pour rien au monde, j'allais prendre le risque de travailler ou bien d'aller dans la rue. J'allais être le seul perdant. Les politiciens n'en valent pas la peine. Tous les actes qu'ils posent, c'est uniquement pour leur intérêt. Ils ne respectent pas leurs engagements vis-à-vis de la population.
Les récentes manifestations ont causé une dizaine de morts et 590 blessés, selon un bilan de la Croix-Rouge. Une situation plus que traumatisante pour Ibou Gueye. Il milite pour le retour de la paix dans tout le pays. Pour lui, cela passera par la libération des manifestants qui sont en ce moment en prison.
La situation sociopolitique est loin d'être stable. Pour qu'elle le soit, il faut libérer tous les prisonniers, d'autant plus que j'estime qu'il s'agit d'arrestations arbitraires, car c'est dans l'intérêt de tout le monde que la paix revienne. Les victimes qui doivent être indemnisées, que l'État le fasse le plus rapidement possible. Nous souhaitons vivement le retour définitif de la paix au Sénégal.
Les manifestations ont cessé depuis près de 48 heures dans la capitale et le reste du pays. Cependant, l'opposition et la société civile réclament une enquête indépendante et la libération des détenus politiques pour une décrispation totale du climat social. D'ailleurs, vendredi, une manifestation pacifique sera organisée à la place de la Nation en la mémoire des défunts. Seydina Bagay à Dakar pour VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la démocratie sénégalaise mise à l'épreuve. L'arrestation du député Ousmane Sonko a plongé le pays dans les pires violences de ces dernières années. Au moins 5 personnes ont perdu la vie et de nombreux dégâts matériels ont été notés. L'opposant a été inculpé pour viol et placé sous contrôle judiciaire. Ses partisans dénoncent un complot visant à l'éliminer de la course à la présidentielle de 2024. Ils demandent aussi au président Macky Sall de dire clairement qu'il ne briguera pas un troisième mandat. Nous discuterons de la situation politique au Sénégal avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com.
Le vendredi 12 mars, la CAF, la Confédération africaine de football, va renouveler son comité exécutif. Son candidate au poste de membre chargé du football féminin, la malgache Patricia Radjeri Harrison, la comorienne Kanissat Ibrahim et la togolaise Latré Kai Lawson. Notre correspondante à Lomé revient sur la candidature de la togolaise, ses idées et ses chances.
Latré Kai Lawson Hogban mise sur son expérience de plus de 3 décennies dans la discipline. Si elle est élue ce 12 mars, elle s'appliquera à la mise en œuvre de la stratégie de la CAF relative au football féminin sur le continent. Nous écoutons la candidate.
Au niveau de la CAF, il y a déjà un travail qui a été fait en amont, auquel j'y ai participé, et il y a une stratégie du football féminin qui a été éditée par la CAF. Mon intention serait d'exécuter cette stratégie et faire un planning pour la carrière des jeunes filles joueuses qui aimeraient toujours faire la carrière dans le football.
Pour le journaliste sportif Franck Nounyama, en plus de son background, la candidate togolaise dispose d'un atout spécial.
Elle a toutes ses chances. C'est vrai que ses adversaires, la malgache et la comorienne, sont des gens très aguerris. La comorienne qui a dirigé, on va dire, le comité de normalisation de son pays, la malgache faisant partie déjà de la commission et qui a envie de prendre désormais le contrôle. Donc ça va être une très très grosse bataille. Maintenant, je pense qu'elle est sur la liste de Patrice Motsepe qui est pressenti comme nouveau président. Donc c'est un appui solide pour elle.
Les femmes qui pratiquent le football sur le continent veulent aussi s'épanouir comme leurs confrères. Kai Tometi, coach des éperviers d'âme.
Nous voudrions avoir beaucoup plus de femmes dans les instances décisionnelles et avoir beaucoup plus de compétitions zonales et sur le plan international pour que les footballeuses africaines puissent profiter et jouir de leur carrière.
Première femme arbitre de football du Togo et première africaine instructeur d'arbitre de la CAF et de la FIFA, celle qui dirige actuellement le département de l'arbitrage de la CAF, souligne la nécessité de laisser les femmes jouir de leur droit à faire du sport au même titre que les hommes. L'attrait Kai Lawson Hogban.
Le sport est le bien-être d'un individu et tout le monde a le droit au sport. Et les parents doivent laisser leurs enfants aller au sport.
Pour vraiment rendre à la femme sa place dans les instances sportives, il faut songer à respecter la recommandation du Comité international olympique d'avoir au moins 30% de femmes dans les bureaux exécutifs. La prochaine étape serait qu'une femme brigue la présidence de la CAF. Kailson, Lomé, VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, la Chambre des représentants examine un projet de loi d'aide massive aux Américains pour faire face à la pandémie de COVID-19. Ce premier plan d'aide de l'administration Biden va remodeler l'économie américaine et envoyer des milliards de dollars des financements mondiaux de la santé à l'étranger. Un compte rendu de Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès. Le récit est de Lionel Gaïma.
Les vaccins anti-COVID sont maintenant déployés presque partout dans le monde. Ici aux États-Unis, les taux de vaccination atteignent les 10%. C'est le moment choisi par les démocrates pour adopter une robuste approche dans la lutte contre la pandémie. Le représentant démocrate Jim McGovern.
Nous sommes sur le point d'envoyer le projet de loi au président, ce qui va aider notre pays à se débarrasser de la pandémie de COVID-19. Il mettra plus de vaccins sur les bras, plus d'enfants vont retourner en toute sécurité dans les écoles, cela mettra plus d'argent dans les poches et plus de gens vont retourner au travail.
L'enveloppe de 1900 milliards de dollars doit remodeler l'économie américaine en fournissant la plus grande aide à la lutte contre la pauvreté depuis près de 100 ans. Les républicains ont critiqué le projet de loi qui, selon eux, aborde trop de problèmes qui ne sont pas toujours liés à la pandémie. Tom Cole, représentant républicain.
Il n'est pas exagéré de dire que la majorité utilise cette crise pour passer son agenda politique de gauche.
Cependant, certains analystes estiment que la taille même de ce plan d'aide colossal aura un effet significatif non seulement aux États-Unis, mais aussi sur l'économie mondiale. J. Stephen Morris, du Centre d'études stratégiques et internationales basé à Washington.
Ce projet de loi de 1900 milliards de dollars va stimuler l'économie mondiale de 1%. C'est une déclaration extraordinaire que si nous pouvons sortir de la pandémie et réouvrir notre économie, nous allons avoir un taux de croissance très élevé.
Le projet de loi fournit également 11 milliards de dollars d'aide américaine pour stabiliser les programmes de lutte contre le COVID-19 dans les pays en développement et poursuivre le programme international de vaccination COVAX. Financer les vaccinations pour les Américains seulement ne suffit pas, avertissent les experts de la santé. Le docteur Ashish Kedja de l'Université Brown.
Les virus n'ont pas de frontières. Si nous continuons un lent déploiement mondial du vaccin, il est tout à fait possible que des souches émergent ailleurs et viennent menacer l'efficacité de nos vaccins actuels et peuvent même les rendre inutiles.
Cette législation de l'administration Biden, le cinquième plan d'aide depuis le début de la pandémie, bénéficie selon les récents sondages d'un large soutien des Américains. Mais après les dépenses records du Congrès pour faire face à la pandémie, l'aide extérieure n'a pas été un combat facile. J. Stephen Morrison, du Centre d'études stratégiques internationales.
Il faut reconnaître que lutter contre le COVID à l'intérieur de nos frontières, sortir de la pandémie, réouvrir la société et notre économie, ne va réussir que si c'est fait de manière universelle dans le monde. Nous ne pouvons pas penser comme si nous étions sur quelques îles isolées.
Dès que le président Joe Biden aura signé cette loi cette semaine, de nombreux Américains à revenus faibles et moyens vont recevoir chacun un chèque de 1 400 $. Les écoles de la maternelle au lycée vont bénéficier d'une enveloppe de 126 milliards de dollars et 39 milliards seront consacrés aux crèches. En outre, le projet de loi qui a déjà été adopté par le Sénat prolonge jusqu'au 6 septembre les allocations chômage de 300 $ par semaine.
Et c'est la fin de ce journal à la mise à nom de Lionel Gaïma, Michel Joseph, Georges Léonard Sagnot et Joselle Morissin. À la présentation, John Linden, édition en chef, Idriss Fall. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.